En fait, il s'agit d'un premier blog-reportage sur cette question du cannabis comestible. Le sujet est vaste, vous allez le constater. Première constatation, la production légale de cannabis au Canada ne suffit pas à la demande et il faudra plusieurs années avant que toute la demande puisse être comblée. Anand Bijan est associé au cabinet comptable MNP et en charge de services conseils auprès d'entreprises œuvrant dans le secteur du cannabis.
Les sociétés ont été capables d'aller chercher des contrats soit d'approvisionnement ou des contrats de distribution ou des licences dans le monde. Donc le Canada se positionne en ayant le premier pays de G7 à légaliser et avec les sociétés en ayant un système de finances très solide et rigoureux, on a été les premiers à être capables d'établir plusieurs sociétés de visée mondiale qui ont leur siège social au Canada et avoir des opérations un peu partout dans le monde. La légalisation est égale à la mondialisation. Le Canada, en fait, offre un accès simple et rapide et presque garanti à des capitaux, ce qui rend attrayant pour les investisseurs. Particulièrement, moi, dans ma pratique, qui est essentiellement d'aider les compagnies à devenir publiques, je vois beaucoup de sociétés qui sont présentement aux États-Unis parce que la légalisation n'étant pas claire là-bas, il y a plusieurs sociétés qui viennent pour se lister au Canada ici. Présentement, c'est à les stats au mois d'octobre, la demande du cannabis à 655 000 kilos et puis la capacité de production actuelle est la moitié, au moins de moitié, à 300 000. On prévoit qu'en 2024, la vente canadienne va être estimée à 1,4 million et c'est d'à peu près dans 6 ans qu'on prévoit que l'approvisionnement va dépasser la demande avec à peu près 2 millions de kilos.
Mais la mise en marché légale de produits comestibles contenant du cannabis est tout de même prévue pour l'automne 2019. Un peu plus de cannabis légal sera alors produit, en tout cas suffisamment, semble-t-il, pour que des aliments en contenant soient vendus. Patrick Cousam, du cabinet MNP, en charge du financement des entreprises et du secteur de la transformation alimentaire.
C'est sûr que nous avons au moins 12 mois devant nous avant que les produits comestibles puissent à leur tour trouver consommateurs. Si on regarde la stratégie du gouvernement canadien, c'en est une vraiment de prudence. On n'a qu'à regarder certains défis auxquels on fait face les États américains au moment de la mise en marché de ces produits-là. Et je pense qu'on essaie de ne pas nécessairement répéter ces mêmes erreurs-là. Il est certain que pour les transformateurs alimentaires, ça peut être un peu frustrant. Mais en même temps, ça va vous permettre d'avoir leur jeu sur comment, quoi et où et quel genre de produits qu'on veut mettre au marché. C'est certain qu'une politique fédérale, comme le propose le Canada, fait en sorte que tout doit passer, bien sûr, à travers les sphères de Santé Canada. Aux États-Unis, alors que nous avons 8 États qui permettent aujourd'hui la consommation de produits comestibles, étant donné que chaque État a le droit de légiférer sur sa géographie, sur qu'est-ce qui s'applique donc par rapport aux produits, au dosage et à la vente, et le type de produit également que nous pouvons mettre en marché, bien, ils ont chacun eu leur propre défi. Alors, souvent, on nous pose la question, mais est-ce que c'est mieux aux États-Unis ou au Canada? En fait, la réponse, c'est ça dépend. Avoir une politique claire comme nous l'avons au Canada, ne serait-ce que sur la légalisation, ce qui amène beaucoup de compagnies américaines à venir au Canada pour se mettre en bourse, étant donné les marchés de financement qui sont ouverts à cette industrie-là, ça a certains avantages, mais en même temps, veut pas, qui dit gouvernement, ben dit attente et red tape. Donc, il faut s'attendre à certains délais, mais on va espérer que d'ici 12 à 18 mois, ce marché, donc, cannabis sous format comestible va voir le jour.
On pourrait qualifier de lourdeur l'encadrement légal du cannabis, mais selon Anand Bijan, l'attitude canadienne a ses avantages.
En gros, les licences visent à autoriser un éventail d'activités liées au cannabis et ça permet à la création d'une industrie légale et diversifiée et concurrentielle. Ça réduit le risque d'infiltration du crime organisé dans l'industrie légale. Et finalement, je pense que ça permet aussi d'avoir des produits de haute qualité. Il y a 3 types de licences. Les licences du producteur autorisé qui donne en gros le droit de vendre des semences, des plantes, des produits et des récoltes. Il y a les licences des distributeurs qui permettent de posséder de produits à des fabriqués, d'assembler, d'importer ou d'exporter du cannabis. Et finalement, il y a une licence de vente. L'approvisionnement, la production et la transformation, tout ça, c'est du point de vue fédéral, c'est de ressort fédéral. Et tout ce qui est distribution et vente, ça provient des régulateurs provinciaux. Également, le sous-secteur du cannabis, il y en a pas mal. Il y a la technologie et l'agricole, dont ça, c'est, on parle des systèmes d'épanage d'engrais, la technologie des cultures en serre, des systèmes d'éclairage, des produits de services auxiliaires, dont ça, on parle des tests de laboratoire, d'analyse d'haleine, d'emballage de produits. Et si vous voyez pour le service de consultation, il y en a des complexités, des règles, des règlements. Plusieurs sociétés qui donnent des services là-dedans. Pour les appareils de consommation, il y a des produits utilisés pour consommer du cannabis. Les produits et extraits, il y a des produits comestibles. Il y a aussi le champ industriel. Des sous-secteurs qui se développent assez rapidement avec la légalisation.
Il faut aborder sérieusement la fabrication de produits comestibles en commençant absolument par une bonne connaissance botanique, pourrait-on dire. Patrick Cousam.
L'anatomie de la plante 101, il y a peut-être quatre éléments là, majeurs à se rappeler. Il y a vraiment deux souches, si on peut dire, là, qui dominent. C'est le sativa et l'indica. Et c'est certain que ces souches-là sont riches soit en THC ou sont riches en CBD. Alors, le THC étant bien sûr l'ingrédient qui a des propriétés énergisantes un peu, qui amène l'euphorie du cannabis, et l'indica qui a des propriétés beaucoup plus relaxantes et calmantes, donc qui va s'adresser à un marché justement de bien-être. Parce que le marché des produits comestibles, tout comme au niveau médicinal, on cherche à combler des besoins, soit d'un côté, je recherche un sentiment d'euphorie, de l'autre côté, je recherche un besoin de calmer, de guérir, d'aider au sommeil, etc. Alors, à l'intérieur de tout ça, également, ce qu'il faut comprendre, que ces deux cannabinoïdes, dont le THC et le CBD, bien, le CBD ne fonctionne pas sans le THC. Alors, un produit dont il y a l'absence de CBD, en fin de compte, c'est du chanvre. Puis du chanvre, ça n'a aucune vertu médicinale vraiment d'un point de vue, si on veut, scientifique. Il y a beaucoup d'applications pour le chanvre, puis j'en ai quelques exemples. Je ne dis pas que ce n'est pas un bon ingrédient, mais c'est juste que ça n'a pas les mêmes propriétés médicinales. Il faut un minimum de THC dans un produit pour que le CBD puisse livrer ce qu'on désire que ça livre, même d'un point de vue, en fin de compte, bien-être. Alors, tout ce qui se retrouve avec des pourcentages de THC de moins de 0,3%, finalement, s'apparente à du chanvre industriel. Puis c'est certain que, dépendamment où est-ce qu'on se trouve d'un point de vue là, de la plante, là, les fleurs ont beaucoup plus de concentration de THC versus les tiges et autres. Donc, les producteurs aujourd'hui, selon justement les produits qu'ils veulent mettre en marché, savent où aller maximiser, si on veut, là, la plante qu'ils sont en train de pousser. Donc, rapidement sur le chanvre. Alors, je veux dire, le chanvre existe depuis plus de 3000 ans. Là, en Chine, là, ils s'en servent à titre de médicament depuis le début des temps. On parle quand même d'une plante qui est de la même famille que le cannabis, mais qui est, je veux dire, riche en bons gras, aminoacides, minéraux, protéines. Ils peuvent essayer justement de contribuer au maintien de la santé, que ce soit au point de vue maladie de la peau, l'eczéma. Ça peut être les maladies cardiaques, étant donné la présence d'aminoacides. Ça se mange cru, ça se mange cuit, ça se mange grillé. Le chanvre industriel également est utilisé dans le textile. Donc, c'est un marché qui existe depuis un certain temps. Et c'est une excellente protéine végétale. Donc, il y a énormément de gens qui, du côté végétarien ou autre, qui peuvent se tourner vers le chanvre à titre justement de protéines quotidiennes. Puis on parle même que ça peut atténuer les symptômes de tout ce qui est syndrome de prémenstruel et ménopause, et en plus peut favoriser la digestion. Donc encore une fois, aujourd'hui, le chanvre est un produit légal au Canada. On en exporte beaucoup aux États-Unis, surtout pour le textile, en fait. Même si aux États-Unis, c'est pas tout à fait clair. Encore une fois, c'est plutôt nébuleux, là. Est-ce que le chanvre est légal ou pas? Il n'est pas présentement parce qu'on l'associe trop encore au cannabis, mais c'est en train de changer. Dans certains États, comme la Caroline du Nord, où il y a énormément de cultures de tabac, et il y a présentement une compagnie canadienne, d'ailleurs, qui, en fait, est en train de racheter ces terres-là pour faire pousser du chanvre. Donc, ils sont un petit peu à l'avance sur la législation américaine. On parle encore d'une législation américaine qui est à deux vitesses, fédérale, étatique. Et donc, dans cet état-là, on laisse pour l'instant les opérations agricoles faire pousser du chanvre, alors qu'au niveau fédéral, ce n'est pas encore tout à fait légal. Mais encore une fois, ce qu'on espère, c'est que ça va changer.
Il faut aussi connaître et comprendre les effets et leur rapidité ou lenteur dans l'organisme humain.
Le corps ne métabolise pas la même façon du cannabis qui est ingéré versus du cannabis qui est fumé. La différence, c'est que le THC, lorsque c'est dans un produit comestible, c'est métabolisé par le foie. Alors que si quelqu'un fume du cannabis, ça se rend directement au cerveau. Et donc, le pourcentage de THC qui est absorbé par le corps, c'est presque quitte ou double. À partir du foie, on parle de 10 à 25 qui se retrouvent au plasma sanguin, alors que si c'est du cannabis inhalé, on parle de 25 à 27 qui s'en va directement dans le plasma sanguin. Alors, c'est certain que ça a un impact sur le délai, donc de ressentir les bienfaits. On parle de produits comestibles, ça peut prendre entre 30 minutes et 2 heures avant de sentir les effets, alors que lorsqu'on fume du cannabis, on parle de 10 minutes. Mais également, l'envers de la médaille, c'est que si j'ai mon high à partir de 10 minutes, les effets peuvent se dissiper au cours de la prochaine heure. Alors que du côté de produits comestibles, ça peut durer plusieurs heures. Et donc, c'est là le défi lorsqu'on développe des produits. On a vu ces situations-là dans certains États américains, dont Colorado, où en fait, marché comestible, je m'achète un biscuit, je le mange, je sens rien, mon Dieu, c'est peut-être pas assez fort, je m'en achète un deuxième, je sens toujours rien. Bon, j'en prends un troisième avant de partir à la maison parce que finalement c'est pas vrai ce qu'il raconte. Et là, ça me frappe et je suis incapable de bouger pour 4 jours. Et il y a eu des situations, en fait, où ça a impliqué salle d'urgence, lavage d'estomac, etc., parce qu'il n'y avait pas assez, justement, de communication et d'éducation de la population. Ce que, justement, le gouvernement actuel ne veut pas se voir nécessairement arriver au Canada. Alors, en tant que transformateur alimentaire, très important de comprendre comment le microdosage et surtout les accélérateurs, en fin de compte, d'absorption ont un impact sur vos produits. Parce que, ultimement, le marché du cannabis récréatif, ce qu'on cherche à faire, là, c'est recréer un peu et je sors avec mes amis prendre une bière. Mais si ça prend 3 heures avant que j'ai mon feeling, c'est ma soirée est pas mal longue, là. Puis finalement, je vais l'avoir tout seul à la maison, puis j'ai un peu gâché ma soirée. Alors, en fait, il y a beaucoup de recherches présentement qui se fait sur non seulement le microdosage, donc que j'achète un jujube, que j'achète un biscuit, un brownie ou un plat congelé, parce que ça s'achète aux États-Unis, au jeu des plats congelés. Il faut s'assurer que le dosage de cannabis qui se retrouve est approprié et également que la dispersion corporelle ne se fasse pas au bout de 3 heures. Alors, il y a beaucoup d'argent qui est investi présentement dans ces axes de recherche-là. Puis c'est sûr que tout ce qui est produit comestible, bon, ben là, on élimine tout aspect de goudron, de monoxyde, de carbone, de l'effet de le fumer, alors que du côté inhalé, on est exposé à ces défis-là. Donc, c'est sûr que c'est presque contre-productif de dire je me soigne au cannabis, mais pour le faire, il faut que je le fume. Alors, je mets ma santé en danger pour me soigner. Alors, c'est sûr que le marché du comestible va permettre de mettre cela de côté et peut-être va être un incitatif autant pour les consommateurs que les médecins d'en prescrire plus grande dose.
Des centaines d'entreprises au Canada se préparent à la mise en marché de produits comestibles contenant du cannabis. Aux États-Unis, dans les États où cela est légal, des milliers de produits sont déjà disponibles. De nouveau, Patrick Cousam du cabinet MNP.
Grignotine, si on regarde l'expérience au Colorado, lors de la légalisation en 2014, à peu près 18 % du cannabis était consommé sous format comestible. 2016, on parle de 38 %. Donc, il faut s'attendre, en fait, à ce genre de tendance-là également au Canada. Il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Je veux dire, encore une fois, si je ne suis pas un fumeur naturellement, peut-être je n'ai pas envie de fumer du cannabis, je préfère l'ingérer. Il y a encore une stigmatisation entourant tout ce qui est fumeur, que dans un contexte social, c'est plus difficile. C'est peut-être moins le fun de sortir fumer à l'extérieur puis rentrer après ça, continuer la conversation. Puis également, je reviens un peu sur l'idée, là, j'utilise le cannabis à des fins médicinales. Ben, fumer, ça va à l'encontre du bien-être, donc pourquoi est-ce que je voudrais faire ça? Il reste quand même les défis au niveau du microdosage, comme je le mentionnais, et la dispersion au niveau corporel. Les produits qui sont présentement disponibles aux États-Unis, donc les catégories de produits les plus populaires, breuvage, grignotine, confiserie, et de plus en plus des mets préparés. Et aux États-Unis, vous n'avez pas la même interdiction qu'au Canada, c'est-à-dire ils ne proscrivent pas le mélange de cannabis avec alcool, caféine et autres, et nicotine. Alors vous retrouvez des bières, des vodkas, donc au chanvre ou au CBD. Au niveau de la confiserie, alors, par exemple, Pot and Pan fait des midi cubes qui sont finalement ce qu'on pourrait associer à des jujubes, des chocolats belges également, des chocolats enrobés. Chiba Chews, en fin de compte, c'était un des premiers produits à mettre sur le marché, un produit stable en THC et CBD. On parle de tirs, en fin de compte, qui sont vendus à travers plus de 800 dispensaires en Californie et au Colorado. Puis, il ne faut pas oublier la cuisine. Et là, ça pourrait être intéressant également pour certains transformateurs alimentaires. Sirop, cacao infusé, beurre infusé. Très, très, très populaire. Et forcément, lorsqu'on se retrouve à faire des produits, exemple, comme les croissants du café herbier, bien, c'est sûr que le beurre utilisé, c'est infusé. C'est là où on fait compte, on va chercher ce qu'on a besoin pour les effets que le consommateur recherche. Rapidement. Alors, produits comestibles, il faut s'attendre à des délais, c'est sûr et certain. On part avec une réglementation qui est beaucoup plus stricte au Canada et qui va peut-être s'assouplir avec le temps. On l'a vu avec le côté médicinal, d'un point de vue de l'infrastructure qui était nécessaire à bâtir, les voûtes, etc. On a déjà commencé à réduire les demandes à ce niveau-là, donc on devrait s'attendre un petit peu à la même chose. Puis, quelques exemples intéressants de ce qu'on voit au Canada. Pour un transformateur alimentaire, il y a deux façons d'attaquer le marché, soit en partenariat, soit je deviens ce qu'on appelle un LP ou un LD, donc je vais chercher ma certification. C'est un processus assez complexe. Des compagnies comme Constellation Brands et Molson Coors ont décidé de faire l'option plutôt joint venture avec Canopy et Exo. Donc, on parle de mise en marché de produits non alcoolisés, mais de bières non alcoolisées ou de produits non alcoolisés. Et il y a Province Brands, qui est une autre compagnie assez intéressante au Canada, qui veut finalement brasser la première bière à partir de la plante de cannabis, encore une fois, non alcoolisée. On s'attend, les derniers sondages démontrent que lors de la légalisation de produits comestibles, il y a en fin de compte une augmentation de la consommation, mais la consommation qui n'est pas nécessairement habituelle, c'est une consommation qui va être sporadique. Les gens vont goûter moins par inhalation, plus par produits comestibles, et ça vise souvent une démographie plus âgée. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup de craintes par rapport aux jeunes, mais c'est plutôt les jeunes professionnels qui vont se tourner vers « Ah tiens, une fois de temps en temps, un mois, je vais aller m'acheter un gâteau, un biscuit ou autre, partager ça avec les amis. » Mais en fin de compte, les consommateurs habituels ne vont pas nécessairement se mettre à consommer plus parce que c'est légal. Ils vont peut-être tout simplement changer leurs habitudes d'achat. Alors, lancement d'un produit comestible au Canada. Bon, aujourd'hui, les transformateurs alimentaires, vous n'avez pas le droit de manipuler le cannabis, vous n'avez pas le droit de la transformer et la mettre en marché. Donc, je reviens un peu sur les partenariats qui peuvent être possibles. Il y a également en Ontario un institut qui s'appelle le Food Innovation and Research Studio, qui est rattaché au George Brown College, qui aide les entreprises à, un, faire des études de marché, deux, élaborer les recettes. Élaborer les recettes, c'est pas juste dire quel type d'ingrédients devrais-je mettre dans mon produit. Est-ce que c'est de la poudre, de l'huile, mais également les parfums masquants. Parce que si je veux lancer un thé ou une soupe avec des cannabinoïdes, je veux pas nécessairement qu'elle goûte le cannabis. Je veux que mon consommateur ait les bienfaits du produit. Alors, il y a des produits masquants qui ont été développés selon justement les souches. Étiquetage, emballage, ça va être plate. On ne pourra pas faire du gros marketing. C'est certain qu'il n'y a aucune personnalité ou public qui va avoir le droit d'appuyer un produit ou un autre. On cherche vraiment à ne pas pousser les gens à essayer. Prenez pour exemple l'industrie du tabac et de l'alcool. Là. Consommez avec modération, puis ça va vous causer le cancer des gencives. C'est un peu ça, là, finalement. Là. C'est un peu dommage, si on veut, d'un point de vue marketing. Là, ça sera pas. En revanche, par contre, ça, c'est sur l'étiquetage. Mais tout ce qui va être en ligne et la création de marque, il va falloir avoir besoin de beaucoup de sous parce que c'est comme ça que vous allez vous faire connaître. Et bien sûr, tout ça sous une consommation responsable. Puis, c'est de l'alimentaire. Donc, il faut concevoir des produits de qualité à un prix que les détaillants vont vouloir mettre en tablette et avec une distribution efficace. Ça ne change pas. Vous le connaissez mieux que moi. Puis finalement, des partenariats avec des grands joueurs du secteur, toujours le bienvenu. Ça peut vous permettre de rapidement rentrer dans ces marchés-là, développer les meilleures pratiques et vous limiter également tous les désagréments de devoir devenir vous-même un distributeur ou un producteur approuvé par le gouvernement canadien.
Ici Lionel Levac. Voilà pour ce premier volet sur le cannabis comestible. Je vous reviens bientôt avec d'autres éléments. Au revoir.